conservateur. C'était un homme de gauche.
Oui, c'est un homme de gauche qui est devenu un libéral du type Benjamin Constant, etc. Quelqu'un du centre. Mais en France, surtout, une grande partie des jeunes historiens très capables, qui étaient au Parti communiste au début, pensaient que 25% des étudiants à l'école normale de rue d'Ulm, après-guerre, étaient inscrits
au Parti communiste.
Au Parti communiste. Oui. Alors donc, il y a pas mal de gens qui, après les 30 glorieuses, je veux dire les 30 glorieuses du marxisme comme idéologie dominante, hégémonique parmi les intellects français, ont révisé leurs idées.
Nombreux, oui, ils étaient nombreux.
Assez nombreux. Et il était absolument sûr que ce n'est pas un phénomène purement français, que le marxisme, comme matrice de ces types d'analyses, a un peu dégringolé dans les années 70.
Mais pourtant, je suis sûr que si on faisait un sondage où, parmi les jeunes Français aujourd'hui sur la Révolution française, il y a ceux qui répondraient que ça ne leur dit pas grand-chose. Et puis ceux qui répondraient que la Révolution, c'est pas bien, ils diraient un petit peu la phrase de Rocard, c'est dangereux, c'est-à-dire que c'est violent, et que c'est la terreur, que la Révolution égale la terreur, et que ça mène forcément au pire, et au totalitarisme. Je pense que c'est intuitif ce que je dis là. J'ai l'impression que c'est ça qui est aujourd'hui dans l'esprit des jeunes générations. Qu'est-ce que vous en pensez ? Évidemment, on n'a pas l'appareil
pour
jouer ça.
À mon avis, oui, vous avez peut-être raison, mais je ne sais pas. Parce qu'il y a, surtout parmi les gens d'un certain âge, n'est-ce pas, il n'y a pas simplement la politique et l'idéologie actuelle d'aujourd'hui, mais la force subsiste de l'idéologie d'hier, c'est-à-dire l'idéologie de la guerre froide. Et par exemple, tout le débat sur le totalitarisme est un débat qui remonte à la guerre froide. Autrement, ça n'aurait jamais eu une telle importance. Et à mon avis, c'est plutôt ridicule. C'est-à-dire, on ne peut pas, par exemple, jeter à la poubelle l'étude des classiques parce qu'on déteste l'esclavage. L'Antiquité grecque et romaine reste un sujet absolument central pour le développement du monde moderne, avec ses côtés positifs et négatifs, mais tout de même, alors de dire « parce que je déteste l'esclavage, je ne m'en occupe plus de ça », ça n'a pas de sens.
Bien sûr.
Et à mon avis, la Révolution française est un de ces épisodes, ces événements globaux, comme d'ailleurs la Réformation et d'autres, qui continuent à attirer, qui génèrent les problèmes, et des problèmes pour chaque génération, des nouveaux problèmes.
La succession d'événements la plus terrible et capitale de toute l'histoire est le point de départ pour l'histoire du 19e siècle. Ainsi, l'historien britannique, collègue d'Eric Hobsbawm, Holland Rose, qualifie la Révolution française. Et Hobsbawm finit sa préface et sa présentation de ce texte aux armes, historien, avec cette phrase d'Hippolyte Taine : que peut un sermon contre ou pour un tremblement de terre ? The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised, televised, will not be televised, televised. Eric Hobsbawm, votre compatriote Margaret Thatcher nous avait dit « il n'y a pas d'alternative, there is no alternative ». Est-ce que vous pensez effectivement comme elle ?
Si, il y a des alternatives.
Quelles sont-elles aujourd'hui ?
C'est une alternative à une globalisation purement dans les termes néolibéraux capitalistes. La globalisation continue, ça continue depuis des siècles. Mais ce qui n'est pas nécessaire, c'est l'établissement d'un marché absolument libre. Et au contraire, dans les années 90 et surtout à l'après, on est arrivé au point où les résultats de